Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, le Hezbollah a-t-il intérêt à une guerre contre Israël?
Oui, dans un discours retransmis à la télévision libanaise hier, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a assuré que son mouvement était capable de frapper en profondeur, je le cite, le territoire d'Israël en cas d'attaque, tout en disant qu'une étape de la riposte était terminée. Alors, quelle étape, quelle riposte? Bref, rappel des faits, il y a d'abord eu fin août cette frappe d'Israël en Syrie qui a tué deux membres du Hezbollah, puis ses drones atterrit peu de temps après en plein cœur de la banlieue sud de Beyrouth. Il faut s'imaginer, c'est en pleine ville, tout près des locaux des médias du Hezbollah. Le mouvement chiite a riposté immédiatement par des missiles qui ont détruit un char de l'armée israélienne, c'était dimanche. Et pendant quelques jours, cette même armée israélienne a demandé à tous ceux qui vivent à 4 km à l'intérieur de la frontière libanaise de rester calfeutrés et d'ouvrir les abris anti-bombes. Bonjour Aurélie Daher.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et à Sciences Po. Vous avez écrit en 2014 au PUF le Hezbollah, mobilisation et pouvoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec vous, faisons d'abord un zoom sur cette frontière entre Israël et le Liban, dont on parle moins ces dernières années, qui paraissait plutôt calme depuis la fin de la deuxième guerre du Liban, depuis 2006. Or, on voit bien ces derniers jours que le Hezbollah n'avait pas perdu de vue son rôle de défense de la frontière, qui est en fait son rôle originel.
Tout à fait. En fait, vous avez tout à fait raison. On parle moins de cette frontière depuis quelques années parce qu'on se focalise davantage sur l'intervention du Hezbollah en Syrie et sur le transfert des tensions militaires, notamment que vous avez évoquées, entre Israël et le Hezbollah en Syrie. Mais la frontière entre le Liban et Israël reste une frontière contestée. Il ne faut pas oublier que donc en mai 2000, le Hezbollah a libéré le Liban Sud en mettant fin à 22 ans d'occupation israélienne et l'ONU a alors procédé au tracé d'une frontière qu'on a appelée la ligne bleue, supposé incarner une frontière définitive entre Israël et le Liban. Or, le gouvernement libanais, mais aussi d'autres gouvernements de la région, avaient déjà contesté ce tracé en disant que voilà, le tracé accordait indûment à Israël des portions du territoire libanais.
Avec des zones donc, que se disputent encore les deux pays, la région des fermes de Sheba, par exemple, qui est une zone très escarpée, très, très montagneuse, je ne sais pas si le terme est adapté.
Tout à fait.
Voilà, alors Israël aujourd'hui accuse le Hezbollah de fabriquer des missiles guidés de précision qui pourraient toucher des centres névralgiques en Israël. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Aurélie Daher, de façon sûre de l'arsenal militaire du Hezbollah?
C'est la question à 10 millions d'euros.
Alors j'enlève le « de façon sûre », c'est ça?
Voilà. Il est très difficile, évidemment, d'avoir des informations fiables à la fois sur le nombre de combattants du Hezbollah et sur son arsenal. Du point de vue du nombre de combattants, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, au cours de l'été 2000, donc quand on a eu cette grande guerre de 33 jours entre Israël et le Hezbollah était capable de mettre quand même 5000 hommes au sol lors de la grande offensive terrestre israélienne, donc les Israéliens, eux, avaient mis en face 40 000 hommes. On sait qu'il y avait grosso modo 1 500 hommes lors de la première bataille de Koussel en Syrie en 2013. Aujourd'hui, disons que les chiffres les plus raisonnables situent le nombre des combattants autour de 10 000, entre 10 et 15 000 hommes. Après, pour les capacités militaires, bon, elles se sont très nettement amélioré depuis 2006. Là-dessus, je pense que nous pouvons croire sur parole ce que disent les dirigeants du Hezbollah. Bon, déjà, on l'a vu, hein, ça a été observé. Ils ont des drones d'observation particulièrement efficaces. Ils ont mené un certain nombre de tests. Il y a quelques années, il y a quand même eu un drone du Hezbollah qui est resté dans l'espace aérien israélien pendant 45 minutes avant d'être repéré. Il y a aussi, ils ont des fusées à portée bien plus importante. En 2006, le maximum que les roquettes du Hezbollah avaient fait en territoire israélien était 75 km à peu près, 75 km de profondeur. Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, parle de fusées qui pourraient frapper carrément le sud d'Israël.
Donc on ne sait pas précisément quel est le nombre de combattants aujourd'hui du Hezbollah, mais vous avez donné des chiffres assez précis, notamment sur ceux qui étaient engagés en 2013 dans la première offensive, disons, officielle du Hezbollah contre les rebelles syriens, donc aux côtés des troupes de Damas en Syrie en 2013. 1 500 soldats, donc aujourd'hui suffisamment de troupes de toute façon et d'armes pour être à la fois à la frontière israélo-libanaise et en Syrie, mais aussi au Yémen, en Irak, où le Hezbollah a envoyé des conseillers militaires travailler avec des groupes chiites. En tout cas, ils sont très nombreux, ça c'est sûr.
Alors, après, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même fonction en fonction des pays. En Irak, effectivement, et au Yémen, il semblerait que ce soit plutôt des consultants. Un peu de ce que font les Iraniens en Syrie. Ce ne sont pas eux qui sont, j'ai envie de dire, sur le territoire, sur le terrain, sur le champ de bataille à se battre. Hein. Ils pensent plutôt les stratégies militaires et puis ils forment les combattants locaux. En revanche, en Syrie, ce sont leurs hommes qui se battent sur les champs de bataille.
Avec toujours un soutien logistique de l'Iran, mais de quelle nature et de quel ordre? Est-ce que les liens sont toujours aussi forts qu'ils l'étaient à la création du Hezbollah, quand l'Iran voulait créer une force proprement chiite et anti-israélienne? Donc quel lien? Et le Hezbollah est-il une marionnette iranienne, comme on le lit ici et là, ou est-ce qu'il suit quand même des intérêts libanais?
Non, là, c'est un peu... on a dit beaucoup de choses sur le lien entre le Hezbollah et l'Iran. Ce lien, il a beaucoup évolué, évidemment, depuis la naissance du Hezbollah, donc au début des années 80. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que la guerre en Syrie a rétabli un certain équilibre entre le Hezbollah et l'Iran, a fait d'eux des partenaires plus que, on va dire, un État gouvernant et un groupe gouverné. Et ça a aussi remis en cause tout le fonctionnement du trio Iran-Syrie-Hezbollah, où il y avait une époque, notamment quand la Syrie avait une tutelle sur le Liban, où le Hezbollah était obligé de prendre en compte les desiderata du régime syrien. Aujourd'hui, le régime syrien, il est en situation de redevabilité vis-à-vis du Hezbollah et vis-à-vis de l'Iran. Ça met, j'ai envie de dire un peu hiérarchiquement, le Hezbollah et l'Iran en situation de force par rapport au régime syrien.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Hezbollah se bat et prend une place si importante dans la guerre en Syrie aux côtés des troupes de Bachar al-Assad, est-ce que ça veut dire que c'est pour protéger le Liban davantage qu'aujourd'hui les intérêts iraniens?
Il y avait plusieurs raisons à l'intervention du Hezbollah en Syrie. Bien sûr, il y a le refus de voir chuter un régime ami aux mains d'un régime qui pourrait être moins ami, et notamment qui pourrait fournir un certain nombre d'informations secrètes, en tout cas tenues secrètes pour l'instant, et importante, stratégique, sur notamment comme l'arsenal du Hezbollah et les effectifs du Hezbollah à Israël. Ça, vraiment, le Hezbollah ne veut pas qu'il y ait transfert de ce genre d'informations. Et puis, évidemment, il y a toute la question de la protection, effectivement, d'une partie de la frontière libanaise avec la Syrie, derrière laquelle vivent essentiellement des chiites et des chrétiens. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans cette histoire, le Hezbollah reçoit le soutien de beaucoup de chrétiens au Liban qui estiment que l'armée libanaise n'a pas les moyens d'assurer leur protection contre les groupes djihadistes sunnites en provenance de Syrie.
Armée libanaise moins puissante et moins fournie en armes et peut-être moins riche aussi que le Hezbollah.
Surtout moins bien formée.
Et moins bien formée. Est-ce que le Hezbollah s'est nourri des conflits, notamment la guerre en Syrie, pour monter en puissance, ou est-ce que ça l'a affaibli?
Alors, il se nourrit pas de conflit, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que l'essentiel des conflits auxquels il participe ou dans lesquels il est sollicité, en fait, sont des conflits qui lui sont imposés. En revanche, il est indéniable que la performance du Hezbollah sur les champs de bataille engrange un certain nombre de succès militaires, de victoires, qui, elle, oui, effectivement, participe au renforcement de sa popularité. Et la Syrie, finalement, a été une aubaine pour le Hezbollah, là où, quand les choses ont commencé à se gâter et que le Hezbollah a fait savoir qu'il s'engageait en Syrie, nombreux ont été les analystes qui ont prédit que ce serait la fin du Hezbollah.
Sur cette frontière israélo-libanaise, est-ce que le Hezbollah a intérêt cette fois à se lancer dans une guerre? Est-ce qu'il en a les moyens? On a compris que oui, mais est-ce qu'il a intérêt politiquement?
Pas du tout, il n'a pas intérêt, j'ai envie de dire les Israéliens non plus. D'ailleurs, il est intéressant de bien comprendre ce que disent les responsables, à la fois du Hezbollah et les responsables israéliens. Le numéro 4 du parti, Mohammad Raab, il y a quelques jours, disait « Nous ne voulons pas de guerre, mais si vous nous cherchez, vous nous trouverez ». Ce qui est intéressant, parce que les Israéliens utilisent exactement la même terminologie. « Nous ne voulons pas d'escalade, nous ne voulons pas de guerre, mais si jamais il faut qu'on y aille, nous serons à la hauteur ». Donc, on est en train de comprendre on est plus dans l'intimidation, dans le test mutuel. On voit grosso modo la vitesse de réaction, l'ampleur de réaction, mais Du côté israélien, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections dans 15 jours. Benjamin Netanyahou n'a aucun intérêt à reprendre la stratégie de Shimon Peres de 96, qui avait été de lancer une grande guerre contre le Liban, et qui finalement, dont le résultat s'est retourné contre lui. Exactement, ça s'était retourné contre lui en 96. Donc Benjamin Netanyahou n'a certainement pas intérêt à jouer la même stratégie. Et le Hezbollah a intérêt, bien évidemment, à ne pas multiplier les fronts. Il a déjà beaucoup de choses à faire en Syrie, même s'il avait les moyens de mener deux fronts en même temps. Pourquoi le faire si on peut l'éviter ?
Voilà, d'où les tractations diplomatiques qui ont cours aujourd'hui, notamment de la part de l'Union européenne ou même de la France, pour contenir le Hezbollah, dissuader l'Iran de jeter de l'huile sur le feu et faire pression aussi sur Israël. Merci beaucoup Aurélie Daher d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
Bonne journée.